La Monnaie, le livre du peuple, section 9. Il ne suffit pas de connaître vos droits. Il faut aussi connaître vos devoirs, car la pratique du devoir n'est pas moins nécessaire que la jouissance du droit au maintien de l'ordre voulu de Dieu, et hors duquel vous n'avez rien à espérer sur la terre. Le droit est la garantie de votre existence individuelle et de votre liberté. Il est votre liberté même. Il fait que vous êtes une personne et non une pure chose dont le premier venu est maître d'user à sa fantaisie. Mais est-ce tout que d'exister? Est-ce tout que d'être libre? Rien ne subsiste isolément dans l'univers, ne s'appuie sur soi, ne se nourrit de soi. On donne pour recevoir, on reçoit pour donner. Et la vie tarirait de toutes parts sans ce don mutuel et incessant de tous à chacun et de chacun à tous. Qui pourrait se passer entièrement de l'aide et du secours d'autrui? Nous en avons besoin dans l'enfance, nous en avons besoin dans la maladie, nous en avons besoin en tout et toujours. Représentez-vous un homme seul, sans relation avec ses semblables, n'en recevant rien, ne leur rendant rien. Ce serait le sauvage au milieu des bois. Ce serait bien moins que le sauvage, car le sauvage vit en famille, en société. Ce serait bien moins que l'animal, qui a sa femelle et ses petits dont il prend soin, et souvent encore, est associé, soit pour la défense réciproque, soit pour un travail commun, avec des individus de même espèce. L'homme isolé des autres hommes, dépourvu dès lors et de langage, et d'intelligence et d'amour, serait au sein de la création une sorte de monstre sans origine, sans lien, sans nom, un je ne sais quoi indéfinissable qu'on regarderait avec effroi. Or, si la sympathie, l'instinct rapprochent les animaux selon leurs lois propres, le devoir coordonne et unit les créatures libres. Il est la base de la société, l'indispensable condition de l'existence commune. Le droit concentre chacun en soi, car ayant pour but immédiat la conservation de l'individu, tout droit par son essence est individuel. Et le peuple, sous ce rapport, n'est qu'un individu collectif. Réclamer un droit, c'est demander quelque chose pour soi. Le pur droit, séparé du devoir, serait l'égoïsme pur, et par conséquent, selon le vieil axiome, la suprême injustice. Qu'est-ce en effet que l'injustice, sinon la préférence absolue de soi aux autres ou le sacrifice des autres à soi? Commettre un meurtre, un vol, un délit quelconque, ce n'est que cela. C'est sacrifier autrui à sa passion, à sa convoitise, à son intérêt exclusivement individuel. Le devoir, au contraire, porte chacun au dehors de soi, car il a pour but la conservation, le bien de tous. Accomplir un devoir, c'est faire quelque chose d'utile à autrui. Le devoir pur est le pur dévouement, où la justice est l'amour suprême. Qu'est-ce en effet que la justice et qu'est-ce que l'amour, sinon la préférence des autres à soi, ou le sacrifice de soi aux autres? Le droit est sacré, puisqu'il est le principe conservateur de l'individu, élément primitif de la société et sa racine nécessaire. Le devoir est sacré, puisqu'il est le principe conservateur de la société, hors de laquelle nul individu ne se développerait ni ne subsisterait. Oh, que la terre serait heureuse et que le genre humain avancerait rapidement dans la voie où il ne doit s'arrêter jamais, si le droit était respecté toujours et le devoir toujours accompli. Cet ordre merveilleux, ces belles et touchantes harmonies qui nous ravissent dans la nature, d'où viennent-elles? De ce que tout y est à sa place et s'y maintient invariablement. Chaque être obéissant avec une ponctuelle régularité aux lois générales et à ses lois particulières, remplit fidèlement la fonction que lui assigna le Créateur. Du soleil, d'où s'épandent d'intarissables fleuves de lumière et de vie, jusqu'à la source qui tombe goutte à goutte du rocher. Tout est ordonné pour une même fin, et tout y concourt par une infinie variété de voies, que la pensée admire d'autant plus qu'elle les contemple davantage. Il n'est pas dans l'univers une action, un mouvement qui, de proche en proche, ne coopère à la croissance d'une mousse. Et les mondes, après avoir parcouru comme elle les phases de leur développement, se décomposent comme elle, nourriture préparée pour d'autres mondes. Nulle créature dont l'existence ne dépend des autres créatures. Il faut, pour qu'elle subsiste, qu'incessamment, il s'opère entre elles une transfusion de leur être. Qu'est-ce que vivre? Recevoir. Qu'est-ce que mourir? Donner. La vie, dans sa condition première, est un sacrifice, une communion perpétuelle et universelle. Ce que les corps bruts, les plantes, les animaux sans raison, et soumis dès lors à la nécessité, font aveuglément par une impulsion fatale et irrésistible. L'homme doit le faire librement. Il doit, se subordonnant au tout dont il est membre, aimer ses frères comme il s'aime lui-même, vouloir leur bien comme il veut son bien, se réjouir de leur joie, s'affliger de leur peine, les aider, les servir, s'identifier à eux, se dévouer pour eux, et travailler ainsi, par une union sans cesse croissante, et des individus et des peuples, à consommer l'unité sainte du genre humain.